Sud Radio Invino, 13h-13h30, Alain Marty.
Bonjour à tous les passionnés du vin, mais aussi de la modération. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission délocalisée chez le caviste Nicolas à Paris. Vous écoutez le numéro 1071 d'Invino. Depuis la création de l'émission, c'était déjà en 2004. On vous souhaite un excellent week-end, notamment aux auditeurs qui nous écoutent par exemple à Nîmes, tiens, sur 104.7. N'hésitez pas non plus à réagir sur la page Facebook ou notre compte Instagram Invino Sud Radio pour partager vos coups de cœur. Aujourd'hui, un joli programme qui prêche, comme d'habitude, la consommation modérée et responsable avec tout à l'heure Eric Billière, qui est propriétaire du domaine du Cassard dans le Bordelais, à 65 km au nord de Bordeaux. Le Vino Quiz également pour gagner un coffret de la marque Divine et Siver Reveal Upsoft de la marque Chef et Sommelier. Et pour gagner tout ça, il faudra jouer sur invinoradio.tv. À mes côtés, deux experts que le monde entier nous envie, qu'on adore, Hélène Piau, chef de rubrique au magazine Régal. Bonjour Hélène.
Bonjour.
Ravi de vous retrouver, ainsi que Philippe Orbach, meilleur sommelier du monde et puis surtout auteur de l'ouvrage Accord Vins et Mets. Publié chez qui, Philippe ?
EPA Édition, Hachette Pratique.
EPA Édition, pour commencer cette émission, Invino Sud Radio a le grand plaisir d'accueillir François Mojard, vigneron en Moselle. Bonjour François.
Bonjour, merci.
Alors,
de m'accueillir.
Racontez-nous, je vous en prie. Vous êtes tout jeune et votre histoire de vin, elle débute il n'y a pas très longtemps. Le premier millésime, c'est en 2016 ?
Le premier millésime récolté, c'est effectivement en 2016, après quelques années d'attente d'opportunités dans ma région, qui est la Moselle.
Pour trouver des vignes, vous voulez dire ?
Pour trouver des vignes, parce qu'elles se font rares en Moselle depuis quelques décennies. Et j'ai eu l'opportunité en 2015 de trouver des vignes et premier millésime récolté en 2016.
Et avant, vous faisiez quoi avant ?
Avant, j'avais fait pas mal de petits jobs. En fait, je suis, comme je dis souvent, un enfant repenti de la finance, dans la mesure où j'ai arrêté mes études de finance en 2009 suite à la crise des subprimes, et je me suis retrouvé dans le vin un peu par hasard, parce que je commençais à m'y intéresser, que c'est le patrimoine français et culturel dans beaucoup de familles. Et du coup, j'ai tenté ma chance. J'ai envoyé pas mal de CV pour une alternance en Bourgogne. J'ai eu une réponse d'un nom qui vous parlera sans doute, Thibault Ligé-Belair.
Ah bah très bien, ce sont les stars qui répondent.
Voilà. Tout à l'heure. Qui a mis sur pied le domaine des jeunes pousses dont on parlait dans une émission il y a peu de temps.
Dernière, ouais.
Voilà, magnifique vigneron de Côte d'Or qui donne systématiquement la main aux jeunes et qui essaie effectivement de répondre à peu près à toutes les sollicitations. Il en a beaucoup, donc c'est chouette qu'il vous ait répondu.
Voilà, bon, après c'était en 2009 comme on disait, donc il n'était pas encore le ponte qu'il est devenu je pense aujourd'hui. Mais c'est vrai que ça a été du coup lui qui m'a transmis la passion des vignes et du vin et qui m'a orienté dans mon choix de créer ma propre exploitation sur mes terres natales.
Philippe Forbach, ce vignoble de Moselle, alors il est petit, il est grand, une cartographie.
C'est 70 hectares, donc c'est pas franchement très grand.
Au total, pas
au total, il est réparti dans différentes poches géologiques différentes. Quand on monte sur la frontière avec Luxembourg et l'Allemagne, on a plutôt des Müller-Thurgau et des Auxerrois. Parce qu'on a des terroirs de type plutôt calcaire, j'ai le calcaire. Il y a d'autres endroits où il y a des gamets et des pinots noirs. Peut-être pas dans votre coin, vous, mais d'une façon générale, on en a un peu en Moselle. Voilà, il y a différents types de cépages, différents types de géologie. L'AOC Moselle a été reconnu il n'y a pas si longtemps, finalement. Hein.
2010.
Voilà, 2010-2011, donc ça, c'est assez récent. Même si on est fait du vin depuis longtemps. Il faut imaginer quand même ce vignoble de Moselle qui aujourd'hui fait 70 hectares. À l'époque de Charlemagne, c'était 40 000 hectares.
Ça c'est assez couvrait étonnant. La région.
Il y avait des vignes partout. Et quand on se balade d'ailleurs dans les villages de Moselle, j'y vais de temps en temps, il y a plein de petites connotations. La rue des vignes, la rue du pressoir, la rue et puis on se dit, où sont les vignes. Oui. Il n'y en a plus franchement beaucoup. Et c'est vrai que quand on évoque la Moselle, ce que disait M. Mojard tout à l'heure, on a plus tendance à penser à la Moselle allemande en termes de viticulture.
Mais la Moselle française... Beaucoup plus
Oui, bien entendu, c'est beaucoup.
Combien d'hectares ?
9000.
C'est 9000, quoi.
9000 hectares sur la Moselle allemande et 1250 sur la Moselle luxembourgeoise.
Voilà, donc, oui, parce qu'il ne faut pas oublier la troisième Moselle.
Exactement. Mais c'est un vignoble qui a le mérite d'exister, de perdurer. Et puis quand on voit des jeunes vignerons comme lui venir nous voir, on se dit que l'avenir est là.
C'est super.
Donc
ils n'ont
plus qu'à développer encore ce vignoble-là.
Alors, il a fallu faire preuve de persévérance pour le développer, ce vignoble, parce qu'effectivement, vous le disiez, votre famille ne faisait pas ça. Vous n'aviez pas démarré en faisant ça. Donc, il a fallu aller demander des conseils, par exemple à Thibault Ligé-Belair, mais aussi des aides financières à l'Europe, à la région.
Vous n'avez pas de sous ?
Je suis parti avec 20 000 euros en poche sur un projet qui en fait 600 000.
Ah oui, 600 000. Le prix à l'hectare en Moselle, on
est d'accord? Alors, le prix est assez élevé compte tenu de la situation. C'est 60 000 euros l'hectare.
Ah, quand même!
En bio, on va dire. Ah oui. Mais ah oui, le fait est qu'on est une région qui est relativement urbaine et la pression foncière est très, très élevée.
Ah,
du coup, les terrains valent une petite fortune.
C'est un peu les coteaux du Bélé de la Moselle, quoi.
Ouais, c'est parfois, on se dit un peu inaccessible, surtout par rapport au prix où on peut vendre nos bouteilles.
Oui, c'est ça, le problème, c'est
la rentabilité.
Oui, exactement.
Bien sûr. Mmh. Ouais.
Alors, vous avez mis tout de suite la barre assez haut, en voulant travailler d'emblée en bio et en parcellaire. Mmh. Racontez-nous, ces choix-là, ils se sont imposés à vous comme une évidence?
Alors, c'était une évidence parce que je récupérais en fait les vignes de trois vignerons différents qui étaient sur, on va dire, dans un premier temps, quatre villages différents. Et du coup, je ne me voyais pas trop mélanger tous mes raisins dans les mêmes cuves alors qu'ils venaient de pratiques culturelles antécédentes différentes et d'expositions et de terroirs différents. D'autant plus quand on a vécu en Bourgogne où on sait qu'on doit faire très attention à nos sols pour pouvoir exprimer les vins et exprimer justement ce qui est dans les sols. Et c'est vraiment l'objectif du domaine. C'est vraiment... Thibaut m'a encore tapé sur les doigts pas plus tard que cette année en me disant que j'écrasais un peu aussi mes vins.
Ouais, il est rapide. En 2022, il a pris des bonnes résolutions. Il tape les doigts.
C'était ça. Ouais. Et puis du coup, il m'a dit...
Vous écrasiez vos vins, comment ça?
Alors, je vous explique. En fait, j'ai fait les mêmes vinifs et les mêmes élevages sur tous mes vins, quel que soit le terroir. Je pars du principe que toute chose doit être égale par ailleurs, en dehors du terroir. Et du coup, je veux vraiment avoir que ce symbole du terroir en unique personnalité. Et du coup, c'est vrai que Thibaut me dit « Oui, mais c'est comme des enfants, on n'élève pas pareil deux enfants. » Ça m'a d'abord fait réfléchir.
Il n'a pas tort, quand même, non?
Vous êtes père de famille, donc...
Vous avez combien d'enfants?
J'ai deux enfants.
Ils sont sympas?
Plus je vois les enfants des autres, plus j'aime les miennes.
Bah, vous voyez, hein, c'est pas le même terroir, c'est pas les
cœurs du papa.
Ils ont quel âge, les enfants?
Elles ont 5 et 8 ans.
Très bien. Leur prénom?
Élise et Claire.
Et ben, on les embrasse. On a fait le tour de la famille. Vous avez un chat, un chien?
Il y avait un chat qui s'appelle Pinot. Un chien qui s'appelle Noah. C'est pas j'interdis aussi.
Hélène, qui s'appelle Hélène.
Donc, on en était effectivement à ces vinifications, donc parcellaire. En parcellaire, en bio. Est-ce que, du coup, suite au conseil de Thibault Ligier-Belair, vous allez changer quelque chose ou pas?
J'y ai réfléchi pendant quelques heures et après, je l'ai envoyé bouler.
Bon, vous avez
mais c'est bien, vous êtes honnête. Hein.
Ah oui, non, moi, je suis transparent.
Vous avez quel âge,
j'ai 34 ans bientôt.
34 ans, c'est bien. Vous verrez, quand vous aurez 50 ans, vous serez moins honnête.
Mais est-ce que cette détermination à aller tout droit et à aller poser le ballon là où vous en avez envie, c'est votre passé de rugbyman qui parle?
Disons que j'ai pas peur d'aller aux confrontations.
Vous jouez quel poste?
Je jouais troisième ligne, même troisième si mon physique ne le laisse pas penser.
Ça dire,
c'est que François Maugeard a quand même joué un jour aux côtés de Morgane Parra et un autre jour contre Mathieu Bastaro.
Au RC Metz, mais en fait, mes camarades ont grandi et pas moi. Et du coup, j'ai dû arrêter ma carrière de rugby là-dessus.
Et vous supportez quel club? Parce que Sud Radio, c'est aussi la radio de rugby, hein,
c'est
notamment.
C'est pour ça que j'en parle.
Alors, je ne supporte pas de club en particulier, comme je suis du Nord-Est et qu'on n'a pas d'attache particulière. Mais c'est vrai que je vais dire que Clermont, parce que Morgane y est. Et puis après, les clubs où il y a un peu de spectacle. En ce moment, c'est l'UBB. En ce moment, c'est
le
La Rochelle.
Jeu, quoi, ça peut être Toulouse.
J'aime le jeu et c'est tout. Quoi.
Ouais. On va aller gagner cette Coupe du Monde en 2023. Après, on va terminer sur revenir sur le vin quand même.
On a des armes pour. On peut espérer.
On a une belle équipe. Quoi. C'est avec un petit coup de vin de Moselle, avec modération, on va tous les bouffer.
Hélène. Alors, d'ici là, on fêtera ça avec du vin de Moselle. Le nombre de vos bouteilles est exponentiel. Donc ça, c'est plutôt chouette.
Combien de bouteilles?
Vous en êtes à quoi? 12 000,
alors,
c'est ça environ?
Le dernier millésime 2020, on a fait 12 000. 1000 cols, parce que 2021 n'est évidemment pas encore en bouteille. Malheureusement, le millésime apocalyptique 2021 a mis un gros frein à cette progression.
Pourquoi?
Alors, beaucoup de dégâts de mildiou. Mm. On a échappé, nous, au gelé dans le nord, parce que les vignes n'ont pas démarré très tôt, mais on a eu une pression mildiou assez exceptionnelle, comme dans tout le Grand Est, je crois. Les Alsaciens, les Champenois, les Bourguignons, peut-être un peu moins, je ne sais pas. On n'en a pas tellement parlé depuis, mais c'est vrai que ouais, c'est une pression mildiou exceptionnelle.
Combien de bouteilles sur 2021? Ça va être...
On espère faire 8500 cols.
Ah, ce qui n'est pas si mal pour une année catastrophique. Hein.
On s'en sort bien, on perd 50% de la récolte dans la mesure où on avait des jeunes vignes qui arrivaient en production. Parce qu'on a planté, j'ai des vignes qui étaient tout juste en entrée de production. Et en plus de ça, on a planté 1,5 hectare sur le millésime 2021. Mais du coup, effectivement, on espérait une bien plus belle récolte. On perd 30% par rapport au millésime 2020, ce qui est moindre mal. Quoi.
Moindre mal. Philippe Forbach, au niveau gastronomie, ces vins de Moselle dont on parle pas assez. Qu'est-ce qu'on peut imaginer comme type de plat
dans les blancs? Alors, des blancs, l'apéro, c'est super. Et en plein.
En sec ou en tranquille ou en effervescent?
Alors, en effervescent, clairement.
Ouais.
Et dans les secs, surtout les poissons, notamment les poissons de rivière, ça marche particulièrement bien. Et après, ça dépend des cuvées. C'est ce qu'expliquait notre ami il y a un instant. Même à vinification égale, le terroir parle. Et en faisant des parcellaires, on a sûrement des vins avec des caractères différents. Certains peuvent aller même sur les blancs, hein, avec des viandes blanches, d'autres avec des fromages, d'autres... voilà. Il faut goûter, j'allais dire, in situ pour pouvoir affiner les choses. Mmh. Mais en tout cas, ça offre beaucoup de possibilités. Et pas simplement un vin comme ça de découverte. Je pense qu'il y a effectivement une palette de vins de type gastronomique intéressant.
Et les prix, ça vaut combien vos bouteilles ?
Alors moi, je suis relativement élevé, on va dire, sur l'appellation. Je pratique une politique de tarif unique, ce qui peut être un peu surprenant.
Alors,
mais
une
qui
seule
a
vinification,
sens.
Une seule tarif,
voilà,
deux enfants.
Ça, François.
Voilà, c'est essayer d'être le plus transparent possible. J'ai voulu un peu, en quelque sorte, envoyer le consensus du grand vin valsé aussi, en me disant que les gens devaient goûter les vins sans biais, et notamment sans biais du prix. Du coup, tous mes blancs sont au même tarif de 12,50€ et tous mes rouges sont au tarif de 14€.
Bah, c'est très raisonnable. Hein. C'est très raisonnable.
Voilà. Oui, par rapport au prix moyen de l'appellation, c'est effectivement
c'est
supérieur.
Relativement élevé.
C'est relativement élevé. Non, mais en tout cas, si c'est du plaisir à moins de 15€, moi, je trouve ça très raisonnable.
J'aime bien l'idée de dire, j'ai pas un grand vin à 22€ et un autre à 10. C'est, voilà, ils sont tous.
Tous les vins sont traités de la même façon. Après, j'ai envie de dire, c'est au dégustateur ou à la dégustatrice de se faire son avis et choisir dans le lot.
Et pour terminer, le potentiel de garde de vos vins, vous le sentez bien ou pas?
Je le sens plutôt bien, surtout sur un millésime comme 2020 qui est hyper concentré. Je regoute mes 2016 qui étaient mes premiers vins et mes 2017. J'ai goûté pas plus tard que la semaine dernière un 2016 en Magnum qui goûtait super bien. Maintenant, je ne veux pas offrir de garantie aux gens parce que ça m'évitera d'avoir à leur rendre
compte. Il y a pas assez de recul aussi. Vous avez l'adresse pour terminer peut-être, Hélène? Vous voulez une adresse, un site?
J'ai pas de site, mais on peut me retrouver sur les réseaux sociaux avec le domaine MW ou domaine Mojard-Reinsberg.
D'accord. Voilà, donc oui. je vais le repréciser parce que François parle de façon passionnante mais un peu rapide, le domaine Mojard-Weinsberg.
Et Mojard, ça s'écrit comment?
Mojard
comme Cajard, version Mojard.
M-A-U-J-A-R-D plus loin Weinsberg, W-E-I-N-S-B-E-R-G, comme ça se prononce.
Merci beaucoup François Mojard, Hélène Piau et Philippe Forbach. On se retrouve dans un instant, toujours chez Nicolas, le caviste passe des places de la Madeleine pour cette émission délocalisée avec le Vino Quiz pour gagner un coffret Divine et Siver Develop Soft de la marque Chef et Sommelier.
Sud Radio Invino, 13h-13h30, Alain Marty.
Retour chez le caviste Nicolas, nous sommes à Paris, place de la Madeleine, pour cette émission délocalisée. On vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque week-end. Vous pouvez également nous retrouver sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, Invino, Sud Radio, pour parler de vos actualités ou de vos coups de cœur. Philippe Forbach, vous qui êtes le coup de cœur de cette émission à égalité avec Hélène Piau, c'est le moment du Vino Quiz alors.
Et oui, d'ailleurs je vous en rappelle le principe, comme ça vous allez tous être très au courant.
Absolument.
Chaque semaine, vous posons une question sur le vin. Et le vainqueur gagne de très beaux cadeaux. Écoutez donc cette semaine, un coffret Divine et 6 verres Develop Soft de la marque Chef et Sommelier, appartenant au groupe Arc, leader mondial des arts de la table. La question de la semaine dernière, rappelez-vous, était pendant combien de temps Angela Kiblier et Hugo Foisel vont-ils bénéficier de l'exploitation du domaine des jeunes pousses dans le Beaujolais ? Réponse A, une semaine. Réponse B, 3 ans. Et réponse C, 3 heures.
Bah, alors, c'est un jeune couple, ils ont 27 ans, ils s'aiment très fort. Et
voilà,
la durée est.
C'est de 3 ans.
3 ans.
Minimum syndical, quand même. Une semaine et 3 heures, il fallait pas exagérer.
On s'aime toujours vos 3 ans.
Voici alors, la question ensuite. De ce week-end. Concentrez-vous. Hein. Dans quel secteur travaillait François Mojard avant de créer le domaine Mojard-Weinsberg en appellation Moselle en 2016? Réponse A, la finance. Réponse B, la coiffure. Réponse C, le cinéma.
Un indice, il a arrêté après la crise des subprimes en 2008.
Et oui.
Voilà, pour répondre et gagner, vous le souhaitez, un coffret Divine et les 6 verres Develop Soft de la marque Chef et Sommelier. Rendez-vous toute la semaine sur le site Invino Vino Radio TV, rubrique Vino Quiz. Et on vous souhaite d'être au sort parmi les bonnes réponses.
Merci Philippe Forbach, Invino sur Radio. A le plaisir d'accueillir maintenant un nouvel invité, Eric Billière, propriétaire du domaine du Cassard. Bonjour Eric.
Bonjour à tous.
Alors vous êtes à 65 km au nord de Bordeaux. C'est un domaine familial?
C'est
vous qui l'a créé?
C'est familial. C'est mon grand-père qui avait commencé dans les années 40 à planter un peu de vigne et mon père qui a développé beaucoup dans les années 60.
Et vous n'avez pas fait autre chose avant de revenir sur les terres familiales?
Si, j'ai fait
Qu'est-ce
plein
que vous
de choses.
Avez fait alors? Racontez-nous.
J'étais sommelier. Pendant
ça, c'est un drôle de métier quand même.
6 ans, c'est assez intéressant quand même.
Ah, c'est vrai, c'est incroyable ça.
Et puis après.
Sommelier où alors?
Restaurant La Toupignon à Bordeaux.
D'accord.
Et alors Monsieur Xiradakis, phénomène.
Jean-Pierre Xiradakis. Voilà.
Et ensuite?
Et ensuite, j'ai fait plein de petites choses différentes. Je suis allé travailler au Canada, je suis revenu, j'ai travaillé dans du déstockage. Je vends des plantes de lave-vaisselle, des fleurs.
Des plantes de lave-vaisselle. J'ai très peur sur votre vin.
Des plantes.
Oui, des plantes, virgule, du lave-vaisselle. Voilà.
Merci.
Bon, et donc, vous êtes arrivé dans le vin à quel moment, en tant que vigneron plutôt, un vigneron?
2009. Mon père est tombé malade en 2009 et voilà, j'ai remplacé un peu sur les vendanges, je l'ai aidé sur les vinifications. Et puis en 2010, j'ai décidé de reprendre la propriété qui faisait 20 hectares. Et j'ai eu l'opportunité de racheter une propriété voisine de 20 hectares supplémentaires.
Ah quand même ? Et les sous viennent d'où là ? Ça coûte cher tout ça là ?
Bah oui, mais j'avais un magasin de déstockage que j'ai vendu. Et...
Vous avez déstocké le magasin de déstockage ?
J'ai déstocké les lave-vaisselles, les plantes,
exactement.
Tout.
Puis, on l'a tout mis sur le vignoble et roule la poule. Quoi. C'est...
J'ai acheté,
Hélène.
J'ai acheté une propriété en déstockage.
Hélène.
Exactement. Donc, vous avez... quand vous êtes arrivé, c'était surtout des cépages colombard et uniblanc. Et parmi ce que vous avez fait, bah vous avez commencé par mettre un gros bazar là-dedans pour mettre les cépages qui vous plaisaient à vous.
Moi, mais mon père avait déjà commencé dans les années 75 à planter du Sauvignon, du Cabernet Sauvignon, du Cabernet Franc également.
Ouais.
Très intéressant pour vinifier les rouges chez nous.
Ah oui, en quelle appellation vous êtes?
Blaye-Côte de Bordeaux.
Blaye-Côte de Bordeaux. Philippe Forbach, un petit zoom. C'est d'excellents rapports qualité-prix, tout ça, non?
C'est vrai, c'est vrai. On en parle souvent, cité d'ailleurs plusieurs fois déjà le domaine du Cassard. C'est une appellation qui produit à la fois des blancs et des rouges de qualité. Un rapport qualité-prix très intéressant. Alors, le vigneron, il va dire qu'il pourrait valoriser encore plus son vin.
Combien ça coûte de bouteille?
Entre 6 et 10 euros. Non,
c'est très
pour
accessible.
Pour nous, c'est super. Mais pour vous, il faut les vendre plus cher.
Voilà. Mais,
ouais, le problème, c'est qu'on a une appellation qui est compliquée à vendre plus cher. Quoi.
Ouais.
On fait quelques petites micro-cuvées, mais c'est pas...
Bah,
c'est pas
dernière,
la plus grosse vente.
Il y avait des gens très sympas de Moselle qui vendent 15 euros, moins de 15 euros la bouteille, 12-15 euros.
Oui, oui.
Et très bien. Donc, il faut compter dès demain matin. Hélène?
Alors, moi, je suis d'accord hein, pour payer davantage. Je ne me regardais pas comme ça. mais effectivement, Blaye, voilà, parfois, effectivement, c'est peut-être plus compliqué à vendre que d'autres appellations plus ronflantes de Bordeaux.
Et vous faites de
alors
la pub un peu, l'appellation, l'interprétation,
oui, bien sûr,
pour essayer de monter un peu le niveau, là.
Il y a 15 jours, il y a Yann Arthus Bertrand qui est venu, qui a passé une semaine dans mon chai pour photographier tous les viticulteurs, pour faire un programme, une expo photo qui sera faite au mois de mai à la Cité du Vin.
Et donc ça, c'est quoi? C'est
le syndicat viticole de Blaye.
Il y a pas mal d'initiatives. Il y a pas mal d'initiatives. Le lieu est beau. Il y a des réserves naturelles. Il y a le château. Il y a
la
citadelle. Citadelle, exactement. Il y a la liaison aussi en face avec
avec le Médoc. Il y a
la marche qui permet de faire des liaisons faciles. Donc il y a une valorisation possible de cette belle appellation, mais elle bénéficie pas encore d'un entrain suffisant pour pouvoir valoriser tout ça.
Et le fait qu'à 65 km de Bordeaux, c'est un avantage ou un inconvénient?
C'est ni l'un ni l'autre. Il faut arriver à faire venir les gens, mais c'est pas facile de les faire déplacer de 60 km. Quoi.
Ouais.
La distance est...
Alors, si on parle de la Charente,
oui.
il y a peut-être effectivement...
un tunnel à creuser ou...
Oui, un tunnel ou peut-être...
Depuis les caves de cognac.
Vous allez chez Annecy, il peut pas fond d'arrivée directement chez Eric.
Il faut le voir, non, 65 km de Bordeaux, mais plutôt comme une porte d'entrée dans le Bordelais. Et ça, c'est peut-être effectivement quelque chose qu'il faut
savoir valoriser.
C'est ce qu'on
essaie de faire, hein, mais c'est pas toujours facile. Non. Là, on est dynamique, on fait plein de choses pour faire venir les gens.
C'est bien.
C'est ce que j'allais dire.
À la fois au niveau collectif, mais également au niveau du domaine du Cassard.
Voilà, alors au niveau du domaine du Cassard, vous faites plein de choses, Eric, pour faire parler des vins. Et puis, vous en profitez pour faire des choses très bien. J'ai envie de parler de la cuvée Générosité.
Je vous ai amené une bouteille pour pouvoir le déguster.
Une cuvée, merci.
C'est généreux, bravo.
Au profit de la lutte contre le cancer. Alors, comment elle est née, cette cuvée?
Elle est née, ça faisait déjà plusieurs années que j'avais l'idée de regrouper plein d'artistes de tout secteur. Et
que vous avez connu comment? Parce que c'est pas en leur vendant des frigos et des plantes vertes.
C'est en venant livrer du vin sur Paris. Je viens tous les ans, deux fois par an, trois semaines, livrer du vin à quelques restaurateurs, dont Philippe. Et puis aux particuliers, et en livrant du vin, en faisant plein de manifestations, j'ai rencontré plein de gens super intéressants. Et en parlant, on est arrivé à monter trois jours de vendange au domaine du Cassard avec plein d'artistes, Fabienne Thibault, Grâce de Capitani, Jean-Pierre Calfon, Laurence Perrault. À 7h du matin...
Il y avait même Laurence Perrault dans un concert qui était là.
Un concert qu'on salue.
Matin, à 7h du matin,
Fabienne Thibault,
c'est super
on
ne
sait pas qui c'est, mais Laurence Perrault quand même.
Non,
bah, c'est vrai.
C'est vrai que vous êtes trop jeune pour avoir connu Starmania.
Oui,
c'est
non, ça. Par contre, je suis assez vieux pour avoir connu Laurence Perrault. Hein, qui est juste avant.
Il y avait Richard Sanderson aussi, qui nous a joué du piano. C'était super sympa.
Vous avez fait une boom terrible.
Richard Sanderson.
On a fait deux jours de boue, deux jours de vendange, c'était super.
Mais il adore.
Donc est né,
est-ce qu'il y avait
Dave?
Il n'y a pas Dave? Non. Bon, alors revenons, Hélène. Oui.
Bon, cette cuvée Générosité, parce que là je me mets à chanter, c'est n'importe
mais
quoi.
Mais chantez un peu là.
Non, je chante
Philippe,
beaucoup moins
vous
bien
vous que Philippe. Vous ne pouvez pas pousser un peu la chansonnette, vous chantez bien,
pas du tout.
Un petit brel comme ça, là.
Mais c'est, le brel, ça n'a rien à voir avec
ouais, une petite citadelle.
C'est juste parce que Eric, c'était Richard Sanderson. C'est, et que c'est les chansons de la Boom. Voilà, enfin, c'est mythique.
Et vous aviez un peu conclu sur la Boom à l'époque ou pas, Hélène?
Je pouvais pas.
Allons-y jusqu'au bout.
J'avais 8 ans et quart. Je concluais rien du tout. J'étais beaucoup trop petite, moi.
Parce qu'à 8 ans, c'était. Bon, alors on y va. Alors, donc, racontez-nous.
La cuvée générosité, on va y arriver. C'est un peu décousu, mais on va y arriver. Donc, vous avez réuni plein d'artistes. Vous avez fait les vendanges pendant 3 jours.
Tout à fait.
Et puis après?
Et puis après, on a dormi pour 3 jours.
On a mis le raisin dans les cuves, on a élaboré du vin. Le vin a été mis en bouteille au mois de mars, où quelques artistes sont revenus pour la mise en bouteille. Et puis après, on met la bouteille en vente et tous les bénéfices de cette bouteille sont redistribués à Agir Cancer Gironde.
Ouais, c'est
bien
ça.
Qu'en fait, la caisse de 12 coûte environ 120 euros, 119,40 si mes souvenirs sont bons.
Oui,
quelque chose comme ça. Et en fait, donc, chaque bouteille coûte 20 euros, mais il y en a 10 qui sont reversées
à Agir Cancer Gironde. Tout à fait.
C'est beaucoup parce que des cuvées généreuses, on en connaît d'autres et on reçoit régulièrement des vignerons qui font des chouettes actions comme ça, mais 10 euros par bouteille, c'est beaucoup.
C'est énorme.
Bah oui, mais en Côte de Blaye, le prix déjà n'est pas très élevé. Donc
Qu'est-ce que vous avez comme type de rendement chouette. D'ailleurs?
Là, on est sur des rendements à 40 hecto-hectares à peu près. Et sur les blancs, on est plus à 28-30 hectos.
28-30, Philippe Forbach, c'est le rendement normal enfin,
c'est pas beaucoup.
Non, c'est pas beaucoup. Non, c'est pas sur beaucoup. Le Côte de Blaye, on est à 50 hectos en principe.
Ah oui, donc il y a un vrai choix qualitatif.
Tout à fait.
Et ce qui est intéressant, mais Hélène, je suis sûr, va le signaler, mais c'est les effervescents.
Oui, j'allais venir au crément.
Bordeaux qui sont juste extraordinaires. Et beaucoup de gens d'ailleurs connaissent le domaine du Cassard à travers la qualité de ce crément de Bordeaux.
Cépage, vous avez quoi comme cépage dans vos bulles?
Sémillon pour le blanc et Cabernet Franc pour le rosé.
Et Cabernet Franc, quoi. Et alors, comment on peut le décrire là, pour ceux qui nous écoutent? Vos bulles, elles sont comment?
Fines, goulayantes, harmonieuses.
Mais ça sent le sommelier, ça sent le sommelier. Non, mais en vrai, Eric, elles sont comment vos bulles?
En vrai,
elles sont rondes, monsieur.
La semaine dernière, j'ai eu le résultat des effervescents du monde et le domaine du Cassard a obtenu une nouvelle fois une médaille d'argent aux effervescents du monde.
Ah bah c'est génial!
Et depuis 2011, tous les ans, c'est régulièrement médaillé.
Philippe, vous connaissez les bulles d'Éric?
Oui.
Pas de solidarité entre sommeliers, attention.
Non, je connais effectivement son crément de Bordeaux, qui est une appellation intéressante d'ailleurs. Elle se développe d'ailleurs. Les vins effervescents dans chacune des régions. On voit le succès, les 315 millions de bouteilles vendues par la Champagne l'année dernière notamment. C'est significatif de l'intérêt des vins effervescents, grandissant. Et le rosé, s'il y a la combinaison des deux, la progression de la demande des rosés et des bulles. Donc c'est vrai que le crément de Bordeaux,
donc les bulles rosées, ça cartonne.
Absolument.
Au niveau gastronomique, qu'est-ce qu'on peut imaginer avec vos bulles? C'est juste l'apéro entre potes en écoutant Laurence Perrault ou alors on fait autre chose?
Les Rolling Stones aussi.
Des huîtres, c'est très sympa. Ouais. Une charlotte aux fraises avec le crément rosé, c'est très bon également.
D'accord. Et sur les vins sans bulles, là, votre blanc par exemple, ou votre rouge?
Le blanc Prestige, qui est vinifié, élevé en barrique neuve, sur du fromage, ou tout seul à l'apéro, c'est formidable.
On carafe tout ça ou on attend un petit peu?
Non, on le boit comme ça, tranquille.
Ouais, entre potes, là. Mais avec modération, Philippe Forbach, attention, pas de blague. Hein,
c'est sympa parce qu'on peut retrouver. Alors, Eric, il vient à Paris de temps en temps.
Deux fois par an, on a compris,
son camion. Des salons, etc. Mais c'est un vigneron qui fait des marchés en plus. Parce qu'on peut retrouver. Au marché de Royan, par exemple.
Royan, La Palmyre, Méchée,
etc. Donc, il est sur le terrain. Il rencontre les gens directement. Non seulement, on peut aller le voir dans son chai, à sa cave.
Bien sûr, mais on peut le trouver également. Et le fait d'avoir été sommelier, c'est un plus pour vos clients? Ça apporte de la crédibilité ou
Non, je crois pas. Non. Non.
C'est vous.
C'est une satisfaction personnelle.
Ils ne le savent peut-être pas tous, déjà, pour commencer.
Non, déjà.
Est-ce que du coup ça aide quand même dans le discours que vous avez justement pour leur suggérer des accords mets et vins, j'imagine, mais est-ce que ça peut pas trop figer, parce que on en connaît, je fais exprès, j'en ai deux à la table là, qui sont là à dire ouais alors c'est bon, ça sent le ventre de lièvre à 4h du matin dans la rosée après qu'il ait couru derrière
avec
une biche.
Gertrude,
franchement ça c'est insupportable. Rassurez-moi, c'est pas comme ça.
Non, pas du tout.
Bon, est-ce qu'il y a au moins, pour terminer, une solidarité entre sommeliers? C'est-à-dire que, est-ce que le sommelier vous achète du vin ou pas?
Ouais, quelques-uns, bien sûr. Ouais. Ouais. Mais déjà, il faut qu'il le goûte pour pouvoir l'acheter. Donc
merci beaucoup. Le site internet, l'adresse, tout ça là, rappelez-nous.
Domaine du Cassard.
Comment ça s'écrit, Cassard?
C-A-2-S-A-R-D.
Merci beaucoup, Eric. Merci également, vous, Hélène Piau, François Maujard de Moselle, Philippe Orbach, million d'amateurs de vin qui nous écoutent chaque week-end. Un clin d'œil à Justine qui a préparé cette émission, ainsi qu'à Sébastien pour la partie technique. Fin de ce numéro d'Invino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur sudradio.fr, invinoradio.tv, notre page Facebook Invino, notre compte Instagram Invino Sud Radio. Et on se retrouve demain. Demain, ça sera 12h30, précise, pour un nouveau numéro. On sera chez Nicolas Lecavitte, qui a été fondé en 1822. On recevra Michel Gassier, Cassier, propriétaire du château de Nage en appellation Costière de Nice, ça c'est une belle région aussi, ainsi que Jean Tessèdre, propriétaire du domaine des Berrioles dans une autre belle région qui s'appelle Saint-Pourçain. D'ici là, excellent déjeuner, restez fidèles à Sud Radio, encouragez tous les vignerons français et puis surtout respectez la plus grande des modérations. Salut, salut.
Sud Radio, Invino.